Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, mais aussi Margot Leridon et Corentin Mansois, réalisée par Anna Olweg et mise en onde ce matin par Swad Boukorsa. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Sémo.
Bonjour.
Tout va bien ?
Bah ouais.
Allez, alors que nous commémorions hier, Marc, l'anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie, se tenait quelques jours plus tôt un rendez-vous important, très important pour comprendre ce que pourrait être l'avenir du monde et pour mesurer la potentialité de futurs conflits. Le Shangri-La Dialogue, une conférence internationale consacrée à la sécurité dans la zone Asie-Pacifique. Un rendez-vous international donc où la lutte d'influence entre les États-Unis et la Chine a dominé les débats. En effet, en pleine guerre commerciale, les deux puissances se sont livrées à des attaques en règle. Le secrétaire à la défense américain par intérim, Patrick Shanahan, évoquant, je cite, une attitude qui érode la souveraineté d'autres pays et sème la méfiance sur les intentions chinoises. Le ministre de la Défense de rappeler que les tensions commerciales avait été provoqué par les États-Unis et que si les Chinois sont ouverts au dialogue, bien sûr, ils sont aussi prêts au combat. S'ils veulent un combat, nous combattrons jusqu'à la fin, a dit le général Wei Feng. Alors, jusqu'où pourrait aller cette confrontation entre la Chine et les États-Unis ? Assistons-nous à l'émergence d'une nouvelle guerre froide entre les deux puissances et quels sont les risques que celle-ci génère ? Pour évoquer ces questions, Alice Ekman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse responsable des activités Chine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. À vos côtés, Pierre Grosser, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste des relations internationales et membre du Centre d'Histoire de Sciences Po. Avant d'évoquer toutes ces questions, comme chaque vendredi, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Soudan.
Les femmes ne viennent pas en seconde position. Depuis le coup d'État de Bachir en 89, nous, les femmes, on a toujours été actives. On a eu des martyrs. On a participé à des actions, à des sit-ins, pour revendiquer nos droits. Tous ceux qui nous parlent de quotas pour les femmes en politique, nous leur disons non, ce n'est pas assez. Pourquoi les femmes sont-elles absentes des comités de négociation avec les militaires ?
Voilà, on entend la voix à l'instant d'Alam Nasser, une militante soudanaise qui a consacré sa vie à l'éducation des femmes. Bonjour Mehdi Medeb.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, réalisateur et on vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait que vous avez co-réalisé avec Sarah Creta. Soudan, les femmes en première ligne, sera diffusé demain sur Arte à 18h35. Quelques semaines, Mehdi Medeb, après la chute d'Omar el-Béchir, des milliers de Soudanais se sont rassemblés, on le sait, en masse tous les jours devant le QG de l'armée pour réclamer l'instauration d'un gouvernement civil avant d'être délogés par les militaires. En première ligne, des femmes, des mères, des filles, des étudiantes, des enseignantes, des musiciennes, toutes ces femmes qui participent avec beaucoup de détermination à cette révolte. On y reviendra d'abord, peut-être l'actualité, Mehdi Medeb, parce qu'en début de semaine, on a vu ce qui s'est passé au Soudan avec des soldats qui sont intervenus contre le sit-in réuni justement depuis quelques semaines devant ce quartier général de l'armée. Les bilans là qui nous viennent du Soudan ne cessent de s'alourdir. Là, on parle de plus d'une centaine de morts. C'est ce que dit en tout cas un comité de médecins proche de la contestation. On a des manifestants qui ont été frappés, tués. Certains ont été jetés dans les eaux du Nil. Il y a une quarantaine de corps qui ont été retrouvés dans le Nil. Pourquoi les militaires sont entrés dans cette phase de durcissement ? Pourquoi maintenant ?
Parce que l'homme qui est à la tête des paramilitaires, parce qu'il faut vraiment distinguer en fait les forces armées en présence, donc les RSF, les Rapid Support Forces, de Emeti, eh bien cet homme-là, Emeti, veut s'imposer en fait comme l'homme incontournable au Soudan. Il avait déjà préparé le terrain pendant la révolution. C'était quelqu'un qui maniait en fait l'ambiguïté, puisque c'était quelqu'un pendant la révolution qui avait notamment libéré une centaine de prisonniers d'opinion. C'était quelqu'un qui s'était opposé à la répression en fait des manifestants juste avant la destitution d'Omar el-Béchir.
Alors pourquoi il lance maintenant la répression ?
Parce que, en fait, il ne veut absolument pas transmettre le pouvoir aux civils. C'est aussi simple que ça. Il est à la tête d'une milice qui prend de l'ampleur, qui était à l'œuvre, en fait, dans la répression au Darfour.
Les gens Janjaweed.
Les gens Janjaweed qui sont devenus maintenant une milice un peu intégrée aux forces gouvernementales, mais qui est une armée dans l'armée et qui n'a cessé de s'accentuer, de prendre de l'ampleur dans Khartoum. Il faut quand même avoir à l'esprit que les forces de Hemeti, les RSF, étaient à chaque coin de rue, contrôler les endroits stratégiques. Et ça, c'est totalement nouveau, en fait, dans Khartoum. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant des années dans les zones périphériques du Soudan, que ce soit dans le Kordofan, que ce soit dans le Darfour, où il y avait une répression, mais qui était silencieuse. C'est-à-dire que les gens n'en avaient absolument pas connaissance, conscience à Khartoum. Eh bien là, elle se retrouve concentrée dans la capitale. Et Hemeti sait qu'il est pris dans une course contre la montre parce que il y a des forces armées au sein des forces loyalistes qui sont plutôt aussi du côté des révolutionnaires. Donc il a tenté l'accélérateur pour prendre de court des forces qui seraient plutôt favorables aux révolutionnaires soudanais.
Je voudrais qu'on regarde un petit peu de quel soutien jouit justement cet homme, Hemeti, c'est son surnom, Hemeti, Mohamed Hamdan Daglo, c'est ça son vrai nom. De quel soutien il jouit d'abord à l'intérieur du pays et ensuite à l'extérieur. S'agissant de l'intérieur, il y a eu il y a quelques jours, fin mai, des manifestations en soutien précisément aux militaires.
Oui, qui étaient des soutiens orchestrés, hein. Ce sont vraiment... ce sont des mukhabarat, enfin je veux dire des hommes qu'on a payés et qui sont venus même manifester. Et c'est clair que c'était un signal en fait du changement qui était en train de s'opérer au Soudan. Il y avait eu également des accrochages aux abords des entrées du Nil qui avaient fait plusieurs morts. En fait, Hemeti...
Donc c'est un soutien factice, il n'y a pas de soutien populaire.
Non, il n'y a pas de soutien populaire. Hemeti n'a pas de soutien civil, je veux dire. D'accord. Et même au niveau militaire, c'est quelqu'un qui est un peu isolé au niveau des forces loyalistes. C'est-à-dire que... Et en fait, il surfe, si vous voulez, sur ce qu'avait fait Bachir, c'est-à-dire qu'en divisant les forces militaires pour asseoir son pouvoir. Et Hemeti est monté petit à petit. En fait, à la base, c'est quelqu'un c'est un brigand, Hemeti. Enfin, je veux dire, quand vous en parlez aux Soudanais, ils ont honte de ce type, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une crapule. C'était un marchand de bétail et qui s'est imposé petit à petit au sein de sa tribu et qui a pris le pouvoir des gens Janjaweed et qui a renforcé en fait son assise d'abord économique. Il a pris le pouvoir en fait d'une mine d'or dans le nord du Darfour, ce qui lui assure des moyens considérables. Oui. Et alors après, vous parliez des soutiens étrangers.
Et c'est ce que j'allais vous dire, parce que là, en revanche, s'il n'a pas de soutien intérieur, à l'extérieur, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, visiblement, le soutiennent.
Ah ben, ils le soutiennent parce qu'il envoie ses forces combattre au Yémen. Il a énormément de forces du Soudan qui combattent au Yémen. Donc le Soudan de Hemeti est capital. Et ensuite, pour les Européens... Au-delà des condamnations de façade, hein, puisque il faut la rappeler, les Européens, disons que les Américains et les Britanniques avaient été plus fermes dès les premiers signaux négatifs. Les Français n'étaient absolument pas courageux et n'avaient absolument rien dit. Et c'est juste depuis le massacre du 3 juin. Qu'on les entend, mais l'Arabie Saoudite et les Émirats ont besoin du Soudan et les Européens ont également besoin du Soudan pour le contrôle des migrations. Le Soudan est un pays carrefour, est un pays stratégique entre l'Égypte, la Libye, la zone saharienne, la Corne de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Mmh. Donc c'est capital, même si c'est un pays qui est totalement sous-traité et sous-médiatisé en France.
Mehdi Bedeb, qu'est-ce qu'on peut attendre comme effet de ce durcissement du régime? Est-ce que vous pensez qu'il est de nature à faire reculer le mouvement de contestation ou au contraire à le radicaliser? Qu'est-ce que vous avez senti, vous, lorsque vous étiez sur place?
Alors moi, quand j'y étais, j'étais dans une fenêtre de tir où la révolution était pacifique, où on pouvait parler, où c'était assez incroyable d'observer ça. Ce que le documentaire qui passe demain sur Arte, c'est du passé. malheureusement. Les femmes dont la parole se libérait, et se libérait de 30 ans de répression féroce. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que pendant 30 ans, c'est une chape de plomb, où il restait difficile de manifester. Chaque fois qu'il y avait un défilé, notamment des femmes, ou des femmes qui revendiquaient de pouvoir porter un pantalon, de pouvoir s'habiller comme elles l'entendaient, de pouvoir porter le voile ou ne pas porter le voile, c'était quasiment impossible. Il y avait des lois terrible. Il y avait la charia qui avait déjà été en vigueur dans les années 80, mais Béchir avait renforcé ces lois par des lois de l'ordre public qui imposaient un ordre moral sur les femmes. Donc moi j'y étais, on y était avec Sarah Creta, à un moment donné, tout ça a explosé. Donc,
oui, il y a d'ailleurs un moment dans votre documentaire qui est vraiment saisissant. On voit un meeting improvisé et sur l'estrade une militante qui appelle les femmes justement à raconter les violences dont elles ont pu être les victimes, en particulier de la part de la police des mœurs. Et on voit ces femmes monter sur l'estrade les unes après les autres et raconter.
C'est ça. En fait, il faut vraiment imaginer que ce sit-in, dans son cœur, c'était une énorme estrade qui symboliquement, en fait, faisait face à l'entrée du quartier général de l'armée. Chaque soir, des personnes, des Soudanais, des anonymes, venaient raconter leur expérience de la répression des années sous Béchir, et devant des dizaines de milliers de personnes qui avaient leur téléphone, donc avec ces lueurs comme ça dans la nuit, venaient raconter ce qui s'était passé. Et donc, tout le monde était saisi, en fait, d'apprendre l'ampleur, en fait, de la répression qui était orchestrée par Béchir. Et après, dans toutes les allées affluentes de cette scène, il y avait des ateliers. Donc des ateliers où les femmes prenaient la parole, où on venait raconter les violations pour pouvoir les documenter, pour ensuite aller en justice et traduire en fait les responsables présumés de ces exactions qui sont aujourd'hui les hommes de Emetti et aussi les hommes des services de renseignement du Nice qui aujourd'hui sont les forces contre-révolutionnaires et qui mènent l'offensive.
Alors, c'était ça, mais c'était aussi une implication directe des femmes dans la révolution. Il y a par exemple cette jeune femme qui est quand même assez étonnante, assez frappante, qui a à peine 19 ans, qui s'appelle Revga, qui est devenue une véritable icône de la révolution après la diffusion d'une vidéo où on la voit en train de prendre une grenade lacrymogène, elle l'a relancée vers les forces de l'ordre. Donc c'est une implication directe aussi des femmes. Elles ont été décisives, centrales dans ce mouvement de révolution.
Ah, tout à fait. Et si vous voulez, elles n'attendent la permission de personne. Enfin, je veux dire, elles s'organisent, elles demandent qu'il y ait la parité dans les organes représentatifs, aussi bien même dans les négociations avec les militaires.
Là, elles n'ont aucune place, aucune représentation.
Mais, c'est-à-dire qu'il y en a une, mais on établit un quota, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que sont les femmes dans la société soudanaise. Donc, c'est pas possible. Et puis, les femmes s'organisent, et y compris aussi maintenant clandestinement, puisque dans les grandes figures du FCC, qui est le mouvement d'opposition, et certaines figures sont recherchées, et aujourd'hui basculent dans la clandestinité. Mais après, le gros des révolutionnaires continue de sortir. Là, j'étais encore au téléphone avec un révolutionnaire qui m'expliquait que cette nuit, il sortait, il bravait les forces de Emetti qui patrouillent, en érigeant des barricades un peu partout dans la ville, dans les quartiers populaires. Donc, on voit que le rapport de force va être très 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 compliqué. Ce sera pas le même rapport que ce qu'il y a pu y avoir en Égypte, où les forces avaient tout de suite réprimé et anéanti en fait les forces révolutionnaires. Donc, moi, je crains quand même qu'il y ait une radicalisation aussi de ce conflit et que des forces armées prennent la défense des révolutionnaires.
Est-ce que vous pensez, Mehdi Benedep, que le dialogue est encore possible? Faut qu'on parle un petit peu de ces discussions avec le Conseil de transition, parce que les chefs de la contestation qui réclament le transfert du pouvoir aux civils ont rejeté l'offre récemment du dialogue de Conseil militaire de transition, qui a succédé donc à la chute d'Omar el-Béchir. Et pourtant, officiellement, évidemment, ils se montre extrêmement ouvert. Abdel Fattah Abdelrahman, qui est le chef du Conseil militaire de transition, il a dit la chose suivante, je le cite, « Nous ouvrons nos bras aux négociations sans restriction, sinon celles de l'intérêt national, pour fonder un pouvoir légitime qui reflète les aspirations de la révolution des Soudanais. » Voilà ce qu'il a dit récemment à la télévision publique.
C'est un cynisme. Non, en fait, le but réel d'Emetti, et du TMC, donc le Conseil militaire de transition, et de diviser les forces d'opposition. Il y avait des forces d'opposition qui étaient reconnues depuis longtemps au Soudan et qui n'ont pas vraiment de crédibilité aux yeux d'un grand nombre de Soudanais et qui, là, vu la situation, vont probablement être un peu les marionnettes de ce pouvoir militaire et accepter en fait les conditions du TMC.
Sur quoi pourrait se faire cette division? Il y a un autre passage dans votre documentaire qui est particulièrement frappant, qui est un sujet qu'on aborde là aussi au moment d'un sitting, c'est la question de la ségrégation ethnique et des rivalités tribales. Il y a une jeune femme qui raconte que depuis toujours, quand elle se présente, on lui demande d'où elle vient, est-ce que tu viens de l'Est, de l'Ouest, c'est quoi ta tribu, etc. Et c'est évidemment une donnée qui a structuré la vie sociale du pays depuis toujours. Est-ce que, par exemple, il y a un risque que les militaires essayent d'utiliser justement cette structuration par l'ethnie, par la tribalité, pour justement diviser la population? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent poindre déjà ou pas?
Disons que c'est un facteur de continuité politique et c'est la culture politique des hommes au pouvoir depuis 30 ans au Soudan. Après, il y a une vraie prise de conscience au sein du mouvement révolutionnaire que cette ségrégation ethnique a trop duré. Il y avait quelque chose de très fort dans le mouvement qui était de s'excuser, de prendre conscience en fait des crimes qui avaient été orchestrés au Darfour, mais pas uniquement au Darfour. Pour ça, je suis pas sûr qu'au niveau de la base révolutionnaire, ils arriveront à diviser. Non, ce qui risque d'arriver, c'est de promettre en fait tout simplement des postes à des opposants qui rêvent d'accéder au pouvoir et de les acheter de cette manière-là. Et que là, en fait, Emeti a juste besoin de s'assurer la transition pendant les 3 ans qui viennent avant les prochaines élections qui seront certainement totalement manipulées puisque au final, Emeti veut se maintenir au pouvoir.
Mais est-ce que le dialogue est encore possible après cette répression? Il y a aujourd'hui le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui vient de débarquer au Soudan et qui aspire à jouer justement ce rôle de médiateur. Est-ce qu'il peut?
En l'état, non. En l'état, vu la répression, mais d'une force, d'une violence, je veux dire, c'était quand même c'est que des Soudanais pacifiques, des milliers de personnes qui dormaient ce jour-là, ce lundi 3 juin, qui menaient des barricades pour défendre en fait ce sit-in, les prérequis de cette révolution, et on a tiré sur eux à l'arme automatique. Je veux dire, c'est d'une violence. On a récupéré, les forces de Emeti sont allées récupérer des corps, des blessés dans les deux hôpitaux. Ils sont allés jeter des corps dans le Nil. Pour les révolutionnaires, jamais. Enfin, je veux dire, c'est fini le dialogue. Enfin, je veux dire, c'était déjà même un sketch quoi pour beaucoup de révolutionnaires. Donc, ils ne cautionneront jamais cette transition qui va assurer la mainmise de Emeti au pouvoir.
Et est-ce que la communauté internationale, je mets des guillemets, peut faire quelque chose, et peut-être en particulier les États-Unis? Vous nous disiez tout à l'heure que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis soutiennent Emeti. Les États-Unis pourraient peut-être faire pression pour
C'est compliqué.
Faire que ce soutien ne soit plus le même et mettre la pression sur les militaires.
Bon, en même temps, d'une main, on a des condamnations fermes, et de l'autre main, quand on circule dans Khartoum, les véhicules militaires qui sont donnés par les Saoudiens ou les Émiratis sont des armes américaines. Enfin, je veux dire, ça me paraît compliqué dans ces conditions-là. Pour l'instant, j'ai pas vu de menaces de Emeti ou d'hommes clés dans son régime sous sanctions économiques. Il faudrait commencer par ça.
Peut-être une réaction de nos invités, Alice Ekman, Pierre Grosser, sur ce cas soudanais. Pierre Grosser.
C'est toujours assez frappant de voir les euphories quand ces mouvements commencent, puisque là, tous ceux qui ont été finalement assez frustrés par la manière dont les printemps arabes se sont terminés ont commencé à dire avec l'Algérie, le Soudan, la graine a été lancée, on va continuer, et puis finalement ça se termine toujours un peu de la même manière, donc c'est difficile d'être optimiste. Et les contraintes internationales qui ont été placées, parce qu'il y a aussi la lutte avec le Qatar, complique énormément tout ce qui se passe dans cette région de l'Afrique.
Alice Ekman.
Ça nous rappelle qu'il n'y a pas que l'Asie-Pacifique, une région chaude et sous tension. Ouais. Et je vais regarder le documentaire demain avec Arte avec grand intérêt, parce qu'il y a aussi une question de hiérarchisation médiatique, parfois des points de tension. On couvre beaucoup certains points de tension, comme la péninsule coréenne, et beaucoup moins, en tout cas, certaines régions comme celle que vous avez couverte.
Tout à fait. Et en plus, Emeti, il faut vraiment avoir en tête que cet homme n'est pas né d'hier. Enfin, je veux dire, c'est depuis quelques années, c'est l'homme aussi des Européens. C'est lui qui contrôle les frontières. Et il a bénéficié de financements de l'Union Européenne à cet égard.
Merci beaucoup, Medeb, d'être passé dans nos studios.
Avec
je rappelle
plaisir.
Votre documentaire « Soudan, les femmes en première ligne » que vous avez co-réalisé avec Sarah Creta, qui sera diffusé demain sur Arte, 18h35. Merci
c'est ça.
Beaucoup.
Merci.
Le Soudan va s'intéresser aux États-Unis, à la Chine, de la guerre commerciale à la nouvelle guerre froide.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Depuis des mois maintenant, on assiste à une montée en puissance des tensions entre Washington et Pékin. Aux sanctions américaines répondent les contre-sanctions chinoises et le dialogue sur un éventuel accord commercial entre les deux puissances semble assez laborieux, disons-le. Et c'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière au Shangri-La Dialogue, une conférence internationale consacrée à la sécurité dans la zone Asie-Pacifique.
En ce qui concerne la récente guerre commerciale initiée par les États-Unis, nous garderons la porte ouverte s'ils veulent discuter. S'ils veulent se battre, nous nous battrons jusqu'au bout. Avant de venir à Singapour, j'ai vu ce que les opinions publiques disaient en Chine. Une discussion ? Bienvenue. Un combat ? Nous sommes prêts. Nous humilier ? Hors de question.
Voilà, au dialogue, on répond bienvenue, au combat, nous sommes prêts. Et jusqu'au bout, voilà ce qu'a lancé le ministre de la Défense chinois lors de cette conférence internationale qui se tenait à Singapour. Alice Ekman, Pierre Grosser sont nos invités. Comment analyser cette position aussi déterminée de Pékin? Est-ce que les Chinois ont décidé de durcir le ton dans cette guerre commerciale qui l'oppose avec Washington? Et jusqu'où est-ce qu'elle pourrait aller? Marc Semo, ça fait des mois qu'on parle de ces tensions entre les États-Unis et la Chine, peut-être en particulier autour de ce différend commercial, mais on voit que les choses ne vont vraiment pas dans le bon sens. La pression monte, les positions durcissent, et on sent qu'est peut-être en train de s'installer une sorte de régime un peu permanent de tensions qui ressemble, alors évidemment, comparaison n'est pas raison, mais un petit peu avec ce qu'on a vu dans notre temps, au moment de la guerre froide, avec cette fois une confrontation, bien sûr, pas avec l'URSS ou la Russie, mais avec la Chine.
Oui,
régime permanent de confrontation.
Oui, mais peut-être plus que la guerre froide, ça peut faire penser aux rivalités de puissance du monde d'avant 1914. Alors, Deng Xiaoping, qui est le père du enrichissez-vous chinois et du miracle économique, voulait redonner son rang à la Chine, mais il rappelait à chaque fois qu'il fallait être discret. Et ses successeurs ont suivi la leçon. Xi Jinping change la donne. Sa nouvelle Chine, il la veut comme la future première puissance mondiale. Économique, bien sûr, tu en parlais, mais aussi militaire et même idéologique, affirmant sa propre vision du monde et ses valeurs en alternative aux occidentaux et à l'ordre international créé après la Seconde Guerre mondiale. La Chine de Xi est par exemple active aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine, sans parler de l'Asie évidemment, mais aussi de l'Europe avec les routes de la soie. Alors la guerre commerciale est bien réelle avec les États-Unis, mais elle n'est qu'un des aspects d'un affrontement beaucoup plus global, avec tous les risques de possibles dérapages vers un conflit ouvert, par exemple après un incident en mer de Chine méridionale où la Chine militarise des îlots contestés, et surtout à propos de Taïwan, alors que Xi Jinping rappelle haut et fort sa volonté de réunifier la Chine. Xi joue la carte du nationalisme, il la joue d'autant plus que les tensions sociales sont en train de monter en Chine. C'est la deuxième économie du monde, mais les revenus quand même très mal répartis. Alors, la population n'en touche pas les dividendes. La Chine, comme on le disait, risque d'être vieille avant d'être riche. Alors, c'est vrai, pour être plus positif, les économies sont interdépendantes entre les États-Unis et la Chine, mais dans le monde d'avant 14, c'était vrai aussi de toutes les économies européennes.
Oui, sans compter qu'elles sont aujourd'hui interdépendantes, mais peut-être que demain, précisément, avec cette guerre commerciale, elles le seront moins, justement, interdépendantes. Pierre Grosser, je vais commencer avec vous, si vous le permettez. La guerre commerciale, elle a quand même été lancée, là, effectivement, par Donald Trump. Est-ce que, finalement, lorsqu'il partira, tout ira mieux avec la Chine? Ou est-ce que, comme le disait Marc, il y a un environnement structurel qui fait qu'en réalité, cet affrontement-là, Donald Trump ou pas Donald Trump, va durer et va structurer notre 21e siècle?
Alors, je pense que ça va durer. Le problème avec Trump, c'est qu'on n'a pas su tout de suite ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'il a commencé pendant sa campagne à être quand même très agressif à l'égard de la Chine. Ensuite, il a fait des ouvertures qui étaient d'ailleurs presque ridicules avec son petit-fils ou sa petite-fille qui chantait des chansons chinoises. Et donc, il y a eu une espèce d'ouverture. On pensait que c'était les meilleurs amis, que tout allait se passer bien. Et puis là, pour tout un tas de raisons, il a durci la position. Mais ce qui est effectivement très intéressant, c'est qu'en fait, derrière cette question commerciale, on a maintenant eu un certain nombre de discours, dont celui du vice-président Pence en octobre de l'année dernière, qui montrait que, en fait, aujourd'hui, c'est tous les sujets sont sur la table, puisque lui étant en plus très fondamentaliste religieux, on est revenu sur la question de la liberté religieuse en Chine. Bien entendu, il y a les questions d'augmentation du budget militaire et des efforts militaires qui sont mis en place qui sont déjà le grand discours du Pentagone depuis extrêmement longtemps. Donc, on a l'impression que c'est sur tous les domaines. Maintenant, c'est quand même les Américains qui ont été les plus durs sur au moment de l'anniversaire de Tiananmen. On n'a pas beaucoup entendu les Européens, mais les Américains ont quand même commenté cela. Donc voilà, c'est en train de devenir vraiment quelque chose de beaucoup plus large que ce conflit commercial.
Alice Ekman, vous étiez présente au Shangri-La Dialogue, ça fait plusieurs années que vous y allez, donc en plus vous pouvez voir un peu l'évolution. Est-ce que vous avez senti, vous, clairement un durcissement des positions? On a entendu tout à l'heure un extrait, il semble que oui, mais quand c'est simplement un extrait, c'est un peu difficile de voir. Quand on voit sur la durée, comme vous le faites, c'est plus facile. Est-ce que oui, il y a un durcissement très clair aujourd'hui de la position chinoise vis-à-vis des États-Unis?
Oui. Clairement, on voit que la tension est de plus en plus forte au fur et à mesure que les années passent. Et ce que soulignait Marc est très juste, c'est-à-dire que les tensions, clairement, aujourd'hui, ne sont pas que commerciales. Elles sont aussi géostratégiques, puisque Chine et États-Unis ont des positions diamétralement opposées sur tous les points de tension de la région Asie-Pacifique, c'est-à-dire la mer de Chine du Sud, Taïwan, puisqu'il y a eu un échange œil pour œil, dent pour dent lors du Shangri-La Dialogue sur Taïwan, assez virulent. Bien sûr, la péninsule coréenne, on l'oublie, mais Chine et États-Unis ont des positions diamétralement opposées sur ce point de tension. Et la rivalité Chine-États-Unis est également politique et idéologique. Ce que l'on voyait très clairement à observer et écouter le discours de Wei Fenghe, le général chinois, donc le ministre de la Défense de la République populaire de Chine, c'est qu'il y avait une coloration assez rouge de son discours, plus rouge qu'auparavant. Il a rappelé que la Chine était un système socialiste, je cite, que Camarade Xi était au cœur de la direction forte de la commission du comité central du Parti communiste chinois. Enfin, je vous épargne le jargon, etc. Mais son discours était émaillé de références à la spécificité communiste du régime et socialiste du régime. Ce n'est pas rien, parce que d'habitude, ce type de discours est développé face à une audience nationale. Là, de le faire avec autant de confiance face à une audience internationale indique que, plus que jamais, la Chine a confiance dans son propre système et souhaite le crier haut et fort dans les enceintes multilatérales. C'est très important parce que, finalement, dans ce contexte-là, on voit que, par miracle, les deux pays se mettaient d'accord sur un accord commercial. Aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, mais c'est possible. Eh ben, les tensions politiques, géostratégiques et idéologiques resteraient présentes aujourd'hui. Et donc ça, c'est très intéressant. Et c'est un autre élément intéressant de noter cet écart idéologique, parce que, oui, d'une certaine manière, toute proportion gardée, il y a des échos avec la guerre froide. En tout cas, la dimension idéologique est fortement présente. Alors, certains disent, oui, mais Chine et États-Unis sont interdépendants économiquement, donc la comparaison avec l'ère de la guerre froide est illégitime, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation, et l'interdépendance économique a tendance à adoucir.
Ça, c'est aujourd'hui, demain, c'est pas sûr.
Mais ce qu'on voit progressivement, c'est de retrait de certaines entreprises chinoises du sol américain, vice-versa. Et à terme, pas tout de suite, mais à terme, on pourrait envisager une réduction de l'interdépendance économique qui entraîne un durcissement des positions géostratégiques de l'un et l'autre, parce qu'ils craindraient, ils ont vraiment à craindre de retomber économique de cette position.
Ouais, il pourrait y avoir une forme de déglobalisation du monde avec ça,
De bipolarisation de la mondialisation.
Ouais, on va y revenir. Marc Sémant.
Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux entre Washington et sa peur, et là, ça va au-delà de l'administration Trump, de perdre sa suprématie, qui est quand même la base continue de la réflexion stratégique américaine, c'est-à-dire être plus fort relativement que l'ensemble des potentiels adversaires, ou bien le révisionnisme de la puissance montante qui veut à tout prix sa place au soleil. Selon vous, quel est le des deux celui qui peut le plus déclencher la cata?
On va commencer par Pierre Grosser et puis ensuite Alice Ackmann. On va suivre la
C'est toujours les deux. Tout à l'heure, vous avez fait la comparaison avec l'avant 14. On dit toujours que la montée en puissance de l'Allemagne a été un des éléments déstabilisateurs. L'Allemagne, c'était à la fois un optimisme très fort sur l'avenir, c'est-à-dire on était persuadé qu'on allait devenir une très grande puissance, et en même temps sur le pessimisme sur le présent. Et là, en gros, le discours chinois, c'est de dire que de toute façon, ils reprennent leur place, que c'est la fin du siècle des humiliations. D'ailleurs, le terme toujours d'humiliation est toujours extrêmement connoté. Que de toute façon, leur histoire est beaucoup plus longue que celle des États-Unis, et ça, c'est pas très difficile. Qu'en 2049, ils vont triompher, bon, etc. Donc, il y a une espèce d'optimisme général qui est lié au fait au succès très très nombreux. Et en même temps, il y a toujours cette espèce de pessimisme avec cette impression que les Américains et leurs alliés font tout pour empêcher cette montée en puissance. Alors, auparavant, c'était la question du, par exemple, des contraintes environnementales, où on expliquait que, voilà, il fallait pas embêter trop la Chine parce que pendant ce temps-là, les Américains, eux, ils avaient énormément pollué. Et donc, en fait, l'environnement était utilisé pour empêcher la montée de la Chine. Et là, à peu près tous les arguments qu'on peut dire d'un point de vue commercial, par exemple, c'est de dire que finalement, nous, on suit en gros les règles de l'OMC. C'est plutôt les Américains qui sont en train de sortir de l'OMC, du cadre OMC, et que l'objectif, c'est d'empêcher notre montée en puissance. Donc ce mélange d'optimisme et de pessimisme, je crois que c'est une des choses les plus dangereuses en relations internationales.
Alice Ackmann.
Pour répondre à la question de Marc, qu'est-ce qui est plus dangereux? Moi, je vois deux éléments qui pourraient renforcer, voilà, qui sont à suivre. La première, c'est la course aux armements en Asie-Pacifique, parce que dans le contexte actuel de tensions renforcées entre la Chine et les États-Unis, une diversité de pays de la région renforce leur capacité militaire et donc ça devient une région très armée nous sommes pas à l'abri de collisions et d'une escalade des tensions dans une région où encore une fois de nombreux points de tension existent. Et le deuxième facteur qui me paraît un facteur de risque en Asie-Pacifique, c'est le fait que Chine et États-Unis aujourd'hui ont du mal à se mettre à la place de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que les divergences politiques sont tellement fortes, les divergences idéologiques sont tellement fortes qu'on a l'impression que nous sommes rentrés dans un dialogue de sourds. En tout cas, au Shangri-La Dialogue, c'est-à-dire qu'ils s'expriment sur les mêmes sujets, mais il n'y a aucun dialogue possible sur ces sujets. À la fois sur Taïwan, c'est approche œil pour œil, dent pour dent, mais il n'y a pas en fait de dialogue possible. Sur la mer de Chine, sur la péninsule coréenne, c'est vraiment une approche où chacun affirme, martèle ses positions sans accorder de doutes, de concessions. Et je pense aussi que le problème fondamental, c'est que à la fois au niveau des décideurs à Washington, mais aussi à Pékin, il y a une faible connaissance du mindset, ce que je veux dire, c'est-à-dire de l'état d'esprit, de la vision de la région, de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que là, on se rend bien compte, au Shangri-La d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les cadres de l'armée populaire de libération ont été formés avec un certain cadre idéologique, avec une certaine vision de la région, et que cette formation est tellement différente que de celle des officiels à Washington, qu'on n'arrive pas du tout à se parler. Ouais. En fait, on parle tous anglais, au final, en tout cas, il y a de la traduction simultanée pour toutes les interventions, mais personne vraiment se comprend, et on s'en rend vraiment compte au moment des questions-réponses. C'est-à-dire que les réponses du général Wei Fong-re à l'auditoire principalement occidental étaient très mal perçues par ce public, que ce soit sur Tiananmen, sur le Xinjiang, sur Taïwan. Mais je ne pense pas qu'il soit conscient de cette perception, parce que l'évolution de la nature du débat au sein de l'appel est de nature totalement différente. Et donc ça, c'est particulièrement difficile lorsque l'un et l'autre n'arrivent pas à se mettre dans les chaussures, en tout cas à la place de l'autre. Je pense qu'en termes de relations internationales, en termes de divergence de perception, ça, oui, ça peut mener à des tensions renforcées de très long terme.
Pierre Grosser, et je me permets d'introduire un nouvel élément, parce qu'il y a un livre aux États-Unis qui est un véritable best-seller, qui vient d'être traduit en France aux éditions d'Il Jacob, qui s'intitule « Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ». Thucydide étant cet historien athénien qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait décrit comment la crainte de Sparte devant la montée en puissance d'Athènes avait conduit à la guerre, et donc il retrace un certain nombre d'événements de l'histoire pour voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'une puissance assise se voit bouleversée par une puissance montante. Et puis ensuite, il présente un certain nombre de scénarios, peut-être qu'on y reviendra, qui pourraient malheureusement conduire à la guerre. Taïwan en étant l'un d'eux. Est-ce que le scénario la possibilité d'une guerre ouverte, comme le propose Graham Allison dans son ouvrage, vous paraît aujourd'hui possible?
Tout est possible en relation internationale, c'est tout le problème. Mais le fait de dire que c'est lié à, j'allais dire, une nécessité historique, pour aller vite, je ne vais pas trop critiquer le livre parce qu'il a été traduit
vous
par
pouvez.
Mon éditeur à moi. Donc,
oui, bah, c'est pas grave, vous avez le droit de le critiquer.
Je
ne
voudrais
quand même.
Pas dire trop de choses négatives, mais en gros, les spécialistes de la Grèce antique ont dit que c'était à peu près n'importe quoi sur Thucydide. Et moi, sur les origines de la Première Guerre mondiale, ça me pose énormément de problèmes. Parce que le problème des Allemands, c'était pas les Britanniques. Pas du tout, ni en 14, ni à l'époque d'Hitler. Hitler, c'est à partir de la fin 37 qu'il a commencé à se durcir par rapport aux Britanniques. Le problème des Allemands, c'était les Français, c'était les Russes. Voilà, il faut pas mélanger toutes les choses. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'on a cette impression qu'il y a un certain nombre de ressemblances, à la fois aux États-Unis parce qu'on en parle énormément, et en Chine parce qu'on lit ce qui se passe aux États-Unis, parce que quand même. Je suis tout à fait d'accord avec évidemment ce qu'Alice a dit, mais il y a quand même une meilleure connaissance en Chine des États-Unis
que l'inverse.
Oui. Pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, on a parlé en anglais, on n'a pas parlé en chinois. Donc, c'est vraiment le débat qui aujourd'hui domine énormément en faisant évidemment ce type de comparaison historique. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a une deuxième comparaison historique. La plus simple, c'est de dire effectivement l'Allemagne était le challenger des Britanniques. Il y a eu une guerre, même deux guerres, puisqu'il faut aussi tenir compte de la deuxième, et le challenger a perdu. Mais il y a une autre vision, c'est de dire que les Américains, eux, ont tiré profit de cette rivalité et ont remplacé, comme étant la plus grande puissance du monde, les Britanniques, sans faire de guerre contre les Britanniques. Il y a eu des plans de guerre jusqu'à la fin des années 20 aux États-Unis contre les Britanniques, mais en gros, ils ont pris la place des Britanniques sans aucun problème. Donc, il y a aussi une hypothèse, c'est-à-dire que les Chinois pourraient remplacer les Américains, comme puissance hégémonique, sans guerre, de la même façon que les Américains ont remplacé les Britanniques. En tout cas, c'est... Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez.
Oui, parce que c'est aussi les auditeurs n'ont pas l'image, mais Marc Semo fait la moue.
Voilà, il fait la moue, mais je veux dire, le problème, c'est que c'est ça la défense. Pourquoi
entre Britanniques et Américains, on est entre cousins, là, il y a quand même des divergences
on est absolument d'accord. Le problème est que quand on... Alors d'abord, il ne faut pas exagérer la proximité des Anglais et des Américains à l'époque. Mais ce qui est très important, c'est qu'en Chine, aujourd'hui, dans les débats et dans ce qui est publié, ce qui nourrit le débat entre Américains et Chinois, c'est ces deux hypothèses qui sont faites. Évidemment, pour les Chinois, c'est intéressant, cette hypothèse.
Alice Segman et puis Marc Semo. Alice Segman.
Oui, juste pour rebondir sur ce point, l'acquisition de connaissances est quelque chose de différent de la capacité de distanciation par rapport à ces connaissances. Et je ne voulais pas remettre en cause à la fois les capacités analytiques américaines ou chinoises. Elles sont très bonne. Et côté chinois, en effet, il y a une très bonne connaissance du processus de décision à Washington, mais il y a, je pense, à haut niveau, au sein du parti et de l'Armée populaire de libération, une faible capacité à se mettre à la place des décideurs à Washington et vice-versa. Et c'est ça le vrai problème. C'est la capacité la limitation dans la capacité à se mettre à la place de l'autre. Et c'est d'autant plus important que les divergences sont idéologiques en termes de politique intérieure, mais elles le sont aussi de plus en plus en termes de politique extérieure. Et lors du Shangri-La Dialogue, un des collègues de Wei Fenghui, si l'on peut dire, un autre général de l'armée chinoise, le général Tse, a indiqué que la Chine était officiellement contre le système des alliances. Et ça, c'est très intéressant à noter. La Chine a toujours été contre le système des alliances. Depuis Mao, la Chine n'a jamais, en tout cas, soutenu ce concept. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013, la Chine le dit plus clairement en expliquant qu'elle souhaite développer un nouveau type de partenariat de sécurité en Asie-Pacifique et au-delà. Et c'est intéressant parce qu'elle dit que tous les pays du monde sont les bienvenus dans ce système de partenariat. C'est-à-dire qu'y compris les alliés des États-Unis. Bien sûr, à court terme, c'est impensable, parce que l'alliance est encore très structurante en Asie-Pacifique et au-delà. Mais à long terme, la Chine espère draguer, si je puis dire, ou séduire des pays qui sont aujourd'hui des partenaires de sécurité des États-Unis. Et ça a des conséquences importantes parce que la Chine aujourd'hui joue sur l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire vous pouvez être allié des États-Unis et aussi partenaire de la Chine dans une diversité de projets, les routes de la soie, Huawei et autres, alors qu'au même moment, les États-Unis disent, dans le cadre de l'Indo-Pacifique, ce nouvel concept stratégique qui est développé par le Japon, les États-Unis, les alliés, dont la France, il y a une volonté de clarifier l'alliance et de dire... Vous êtes avec nous, ou pas. C'est-à-dire, si vous êtes allié des États-Unis, si vous êtes faire partie de l'alliance, vous devez être clair sur vos positions et attention à ne pas rejoindre les projets chinois. Donc, cette ambiguïté stratégique entretenue par la Chine risque de poser des problèmes de plus en plus aux États-Unis et à leurs alliés dans les prochaines années. C'est déjà le cas aujourd'hui.
Marc Semo.
Bon, et la Russie dans tout ça?
Ah bah oui.
Voilà.
Ah bah oui.
Parce que... Bon, actuellement, là, Xi Jinping est au forum de Saint-Pétersbourg avec Poutine. Il dit c'est mon meilleur ami. Alors, on dit, voilà, on est logique guerre froide que tu évoquais. Donc, la Chine et la Russie, qui ont des points communs idéologiques, notamment régime autoritaire, etc., sont ensemble. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la guerre froide. Parce que la Chine, aujourd'hui, est la deuxième, voire à terme, la première puissance économique du monde. La Russie, c'est le PIB de l'Espagne ou de l'Italie dans les bonnes années. Et en même temps, c'est un pays vide. Donc, cette alliance entre la Russie et la Chine, globalement, c'est pour la Chine. C'est l'invasion, y compris, bon, simplement économique, démographique, à terme, de cette Syrie, de cette Sibérie vide, pas par la Chine. Donc, où est-ce qu'on en est, justement? Est-ce que on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec la guerre froide?
Allez, on inverse. Alice Ekman et puis Pierre Grosser. Alice Ekman.
Non, mais je trouve cette question particulièrement intéressante parce que, il y a 5 ans, on a sous-estimé le rapprochement entre la Chine et la Russie. On disait, c'est un mariage d'intérêts, il n'y a pas d'amour entre ces deux pays, il n'y a pas de convergence idéologique forte. Aujourd'hui, on voit quand même que leur position sur la péninsule coréenne, sur la mer de Chine du Sud, sur Taïwan, mais aussi sur la Syrie, sur la Crimée, sont compatibles. Et donc, l'un et l'autre s'alignent, en tout cas, ne font pas de l'ombre selon leurs intérêts respectifs. Ils ont renforcé les exercices militaires conjoints en Méditerranée, en mer Baltique, l'exercice militaire conjoint Vostok en Sibérie, en mer de Chine du Sud également. Et sur le plan conceptuel, alors peut-être pas idéologique, mais conceptuel, ils s'entendent relativement bien. La relation est qualifiée d'un partenariat basé sur le principe de non-alliance. Donc ça veut dire que la Russie aussi est confortable avec cette opposition au système d'alliance occidentale, hein, qu'il considère illégitime dans son environnement proche et au-delà. Alors certes, il y a des points de tension encore entre la Chine et la Russie, notamment la Russie qui reproche à la Chine de ne pas assez investir sur le territoire russe. Mais la Chine aujourd'hui essaye d'apporter des garanties pour les investissements à venir dans une diversité de secteur et pas uniquement énergétique, mais aussi dans le secteur de nouvelles technologies.
Donc, et ça peut s'arranger.
En tout cas, l'analyse des relations Chine-Russie me fait dire que la Chine n'est pas si isolée qu'on a tendance à le dire dans le monde, parce qu'au-delà de la Russie, j'ai eu la chance d'assister à des sommets de sécurité que la Chine organise, c'est-à-dire l'alternative du Shangri-La Dialogue en Chine. La Chine arrive à réunir une diversité de représentants étrangers. Et c'est un cercle de pays amis, comme dit Xi Jinping, qui est très différent de celui que l'on retrouve au Shangri-La Dialogue. C'est-à-dire que, bien sûr, les Russes sont très présents, mais il y avait aussi les Nord-Coréens qui étaient très présents à la dernière édition. Et ben oui, il y avait aussi l'Équateur, il y avait aussi la Serbie, il y avait aussi une diversité de pays africains. C'est-à-dire que la Chine n'est pas si isolée qu'on a l'impression de le percevoir aujourd'hui.
Pierre Grosser, sur ce rapprochement, ces relations entre la Russie et la Chine.
C'était uniquement... Face aux États-Unis et que finalement chacun menaçait de se rapprocher de la Chine ou menaçait de se rapprocher de la Russie pour faire pression sur les États-Unis. Aujourd'hui, je pense que c'est effectivement dépassé. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui prophétisent effectivement, comme d'une certaine façon vous l'avez fait sur les équilibres démographiques, que ça va pas durer, qu'il y a aussi des contentieux territoriaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même des territoires russes aujourd'hui qui ont appartenu à des Chinois, et Mao le disait, hein, que dans la période de rupture, mais qu'en gros ça se passe relativement bien, même s'il y a un certain nombre de militaires en Russie qui grondent un peu. Ce qui est important, c'est que ça change complètement nos calculs, parce que d'une certaine façon on se retrouve dans la situation des années 50, hein, d'avoir la Chine et la Russie ensemble, même si, comme vous l'avez rappelé, les polarités sont inversées. Mais il faut bien voir qu'au départ, on a quand même eu l'impression que M. Trump, ce qu'il souhaitait, j'allais dire, c'était pratiquement une grande alliance blanche, donc avec la Russie, face à la Chine. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de réalistes ou d'hyper réalistes aux États-Unis qui disent qu'il va falloir choisir. C'est-à-dire que si on continue à avoir des problèmes à la fois avec la Russie et avec la Chine, et je ne parle même pas de l'Iran et d'autres, on ne s'en sortira pas. Il faut faire comme le grand Kissinger avait fait, c'est-à-dire séparer les deux. Soit se rapprocher de la Russie, soit se rapprocher de la Chine, même si les militaires disent que le défi est un défi à la fois russe et chinois, mais le défi russe, c'est à court terme, et c'est pas un défi d'hégémonie. La Russie ne sera plus jamais une grande puissance hégémonique, mais à long terme, c'est la Chine. Donc le problème, c'est de choisir entre le court terme et le long terme.
Et alors le problème pour nous en particulier, pour la France, c'est comment on se positionne aussi.
Qu'est-ce que peut faire la France dans tout ça, qui, on l'oublie aussi, est une puissance asiatique. Elle a des intérêts dans l'Indo-Pacifique, y compris par ses territoires, par les îles, par les eaux territoriales. Alors qu'est-ce qu'elle fait?
Florence Parly était présente, elle a dit, nous, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, on est neutre. Alors après, peut-être c'est une neutralité de façade, évidemment.
Ça, c'était la diplomatie, mais en même temps, les Français ont testé, par exemple, en mer de Chine méridionale, un peu les capacités réactives des Chinois. Donc il y a une présence, y compris militaire.
Mmh. Alice Ekman?
Oui, il y a une présence militaire qui a été affichée très clairement dès les premières phrases du discours de Florence Parly. Il y a aussi un soutien très clair au concept Indo-Pacifique, donc c'est-à-dire un renforcement des partenariats, notamment militaires, avec les alliés. Il y a une position critique sur, même si c'est toujours formulé en termes diplomatiques, mais vis-à-vis de la position chinoise en mer de Chine du Sud, qui tourne autour aussi de la protection de la liberté de navigation. Et donc, la France essaye de se positionner comme une puissance Indo-Pacifique, et de mon point de vue, elle a en tout cas choisi son camp. En tout cas, dans les déclarations actuelles, même si diplomatiquement elle dit qu'elle essaie de se positionner à équidistance, elle n'a pas du tout le même positionnement que des pays comme Singapour, par exemple.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a choisi son camp?
Justement, cet attachement au concept Indo-Pacifique, cette volonté de régulariser, de continuer à déployer des navires, passage de navires dans la zone, y compris en mer de Chine du Sud, avec un déploiement européen, c'est-à-dire avec des représentations de troupes européennes, notamment britanniques, mais pas uniquement, à bord de ces bateaux.
Mais quand on est pour la liberté de navigation, on est contre la Chine.
Non, mais disons.
Mais en gros.
Disons qu'en tout cas,
elle n'en a que faire, la Chine, de la liberté de navigation. C'est pas son problème. C'est ce qu'elle a toujours dit. C'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle parle pas de militarisation des îlots. Elle dit, de toute façon, c'est notre territoire, donc on militarise pas.
Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que la France, quand même, renforce des partenariats avec les pays qui sont censés contrebalancer la puissance chinoise, à savoir. Oui.
L'Inde et l'Australie.
Oui. Et même en partie le Japon, même si la question de la défense au Japon reste extrêmement sensible.
Pierre Grosset?
Oui, on a des inquiétudes relativement légitimes aussi par rapport au Pacifique Sud, c'est-à-dire que la Chine pousse aussi dans cette direction. Je crois que ce qui est assez impressionnant, c'est la rapidité de ce tournant vers ce pivot presque vers l'Asie, puisque il y a 6-7 ans, quand les Américains faisaient leur propre pivot vers l'Asie, à l'époque d'Obama, ils demandaient aux Européens, venez avec nous, faites quelque chose, etc. Il n'y avait pas beaucoup de réactions à Paris. Et là, ça s'est énormément accéléré ces derniers temps. Et je pense que c'est aussi maintenant un élément essentiel d'être pour rester une puissance mondiale. D'une certaine façon, quand on faisait la guerre d'Indochine, c'était pas parce que l'Indochine était absolument fondamentale, mais c'était comme ça, on était une puissance pacifique, donc on était une puissance mondiale, donc on pouvait traiter de toutes les grandes affaires du monde. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas aussi une puissance dans l'Indo-Pacifique, et les Britanniques d'ailleurs le pensent exactement de la même façon, vous n'êtes pas une puissance mondiale, et donc par exemple, dans ce jeu américano-chinois, vous ne pesez pas. Donc c'est aussi, d'une certaine façon, une carte de visite pour rester une grande puissance, en plus évidemment du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça marche pas très bien, il faut trouver d'autres manières de peser dans le monde.
Et alors justement, quelle menace représente Alice Ekman, cette montée en puissance des appareils sécuritaires des uns et des autres, dans cet espace-là en particulier? Il y a évidemment Taïwan qui a été évoqué, vous l'avez dit dans cette conférence, qui est vraiment, semble-t-il, un casus belli pour les Chinois. Je ne sais plus ce qui a été dit exactement, mais en gros, c'est s'il y a ingérence et si on s'oppose à l'unification de Taïwan à la Chine, alors là, on ira au combat et on ira jusqu'au bout. C'est ce qu'a dit le ministre de la Défense, je suis sûr même. Est-ce que Taïwan, c'est par là que finalement pourraient se cristalliser les tensions?
Oui, de mon point de vue, Taïwan est le point le plus chaud de la région aujourd'hui, encore davantage que la péninsule coréenne, même bien sûr si tout est relatif et les choses peuvent évoluer assez rapidement, compte tenu du fait que Trump et Xi ont des positions extrêmement divergentes sur le sujet, compte tenu aussi du fait que les élections présidentielles auront lieu à Taïwan prochainement, compte tenu aussi du fait qu'il existe le Taiwan Relations Act, c'est-à-dire le soutien militaire américain à Taïwan en cas de crise majeure. Et donc, ça pourrait, oui, les tensions pourraient s'accentuer rapidement, d'autant plus que d'un point de vue chinois, Xi Jinping a quand même prononcé un discours particulièrement virulent sur Taïwan il y a quelques mois, et il a aussi exprimé le fait, comme d'autres dirigeants auparavant, que Taïwan était une question de souveraineté nationale. Oui. Et donc c'est présenté, parce que certes, bien sûr, la Chine a des intérêts concernant la péninsule coréenne, concernant la mer de Chine du Sud, mais Taïwan est perçu, du point de vue chinois, comme une erreur historique à corriger. Et un problème national vis-à-vis duquel aucune puissance considérée comme étrangère ne pourrait interférer ou se mêler. Et donc, le simple fait que les États-Unis évoquent le Taiwan Relations Act au Shangri-La est perçu comme une humiliation de plus, et les tensions sont particulièrement vives dans le Détroit. Donc tout dépendra aussi du résultat des élections, mais oui, c'est un point de tension très vif.
C'est un point de tension très vif. On se souvient, en 1996, il y avait eu aussi une grave crise dans ce Détroit de Taïwan. Les Chinois avaient déployé des forces. C'était Bill Clinton, à l'époque, qui était à la Maison-Blanche. Il avait immédiatement envoyé deux porte-avions. Les Chinois s'étaient rétractés, sauf qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. D'abord parce que les Chinois ont une puissance maritime, une puissance navale qui n'a rien à voir avec celle qui existait il y a 20 ans. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, c'est Xi Jinping, Pierre Grosser.
Oui, mais c'est une histoire qui est quand même beaucoup plus ancienne, hein, puisque, je veux dire, il faut bien rappeler que les Américains étaient prêts à lâcher Taïwan. S'il n'y avait pas eu la guerre en Corée, ils ne se seraient pas accrochés à Taïwan. Et qu'ils ont finalement testé leur stratégie nucléaire, les Américains, sur la question de Taïwan, puisque ils se sont posés la question, quand il y a eu des bombardements sur des petits îlots proches du continent qui appartenaient à Taïwan, s'il fallait utiliser l'arme atomique. Et aujourd'hui, on se pose exactement la même question, c'est-à-dire, qu'est-ce que les Américains feraient sur Taïwan? Qu'est-ce que les Américains feraient sur les îles Senkaku, Diaoyu? Parce qu'il y a aussi cette question-là avec le Japon. Et donc, la question, justement, des alliances, qui est une question compliquée pour les Américains, quand même, en ce moment, avec Trump, risque de se poser. Peut-on risquer une guerre générale pour Taïwan ou pour les Senkaku Diaoyu? À côté de ça, il faut quand même être... Alors, il y a quelque chose qui est assez nouveau maintenant, c'est que les Américains aident vraiment militairement Taïwan plus qu'ils ne le faisaient auparavant. Hein. C'est revenu vraiment... Mais dans la région, on n'est pas encore dans des chiffres, enfin des pourcentages de PNB, de dépenses militaires, si importants que ça. C'est bien inférieur à la guerre froide, hein, donc il ne faut pas non plus imaginer que c'est une course aux armements complètement différente. Ça augmente, mais on est encore dans des chiffres relativement raisonnables, et un certain nombre de gens expliquent que de toute façon, personne ne voudra faire des opérations militaires ou une accumulation militaire face à la Chine, parce que on balance tout le temps entre les États-Unis et la Chine dans la région. For a while. For because it was an all-burning feeling in my chest to fill the void of a long night unwatched by, well, the sun, until the morn.
Merci beaucoup à nos invités. Alice Ackman, je rappellerai pour aller plus loin, La Chine dans le monde, un ouvrage que vous avez dirigé aux éditions du CNRS. Merci également à vous, Pierre Grosser. Je rappellerai L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle. C'était chez Odile Jacob, c'est ça, voilà. Merci beaucoup également, Marc Sémon. On se retrouve vendredi prochain. Il est 11h, presque 53 minutes. L'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice, et encore un livre à recommander, Brice, aux éditeurs français.
Identity Rules and the Promise of Liberalism par Mark Koyama et Noel Johnson. Durant des siècles, le christianisme est demeuré illégal au Japon. Le pays s'étant ouvert au commerce avec l'Occident, les Américains exigèrent du gouvernement de ce pays le droit, pour leurs ressortissants, commerçants ou diplomates, de pouvoir assister aux offices. Et en 1858, par le traité Harris, les visiteurs occidentaux se virent accorder le droit de pratiquer leur religion sur le sol japonais, à condition de renoncer à toute forme de prosélytisme. C'est aux yeux de Mark Koyama et Noel Johnson un exemple parmi tant d'autres de ce qu'il faut considérer comme des droits collectifs, par opposition aux droits individuels. La plupart des empires multiethniques, en particulier l'Empire ottoman, étaient basés sur ce type d'organisation. Les droits des individus étaient entièrement indexés sur leur appartenance collective, sur leur identité, et celle-ci était le plus généralement fondée sur leur religion. Et bien, par opposition, une société moderne, une société libérale, se caractérise par le fait que chaque individu a un droit reconnu à une sphère distincte de la sphère publique. Il n'est requis d'obéir qu'aux règles qui sont également applicables à tous les autres, quelle que soit sa religion, son appartenance ethnique ou culturelle. Et pour mériter d'être appelé état de droit, de tels régimes doivent établir un certain nombre de règles, prédictibles, stables, générales, et donc également applicables à tous leurs citoyens. tout le monde y est traité en tant qu'individu et non pas en fonction d'un groupe d'appartenance quelconque. Mais il ne faut pas se cacher que ce type d'État est d'apparition récente, même dans les démocraties occidentales. Pendant des siècles, les personnes se voyaient appliquer des droits distincts selon leurs États, comme dans la France d'Ancien Régime, et là encore, la religion jouait un rôle discriminatoire majeur. Pensez au cas des protestants et des juifs. En fait, le saut vers l'État de droit n'a été possible que lorsque ces États ont cessé de faire reposer leur légitimité sur la religion. Mais cela ne s'est pas fait en un jour et le chemin fut difficile. Il y eut dans le passé des rechutes. Or, prévient Marc Koyama, pas mal de pays occidentaux sont en train de faire de telles rechutes. Dans une société libérale, les individus s'assemblent librement, ils adhèrent au groupe de leur choix et doivent pouvoir les quitter tout aussi librement. Certains d'entre eux peuvent entrer en tension avec le courant dominant de la société. Ils peuvent par exemple rejoindre des sectes religieuses bizarres ou extrémistes, des adeptes de sports extrêmes ou d'activités sexuelles marginales et mal considérées. Et bien, dans une société libérale, la liberté reconnue aux individus de poursuivre des activités désapprouvées par la majorité est cruciale, écrit-il.
Et cependant, Brice, il existe nécessairement un débat sur les limitations à apporter à cette liberté. À partir de quel moment doit-on considérer que les comportements de ces groupements se révèlent rigoureusement incompatibles avec les normes de la société ?
Nouvelle citation. Une société libérale peut et doit admettre des poches d'illibéralisme en son sein, mais elle ne peut pas fermer les yeux sur les abus commis à l'encontre des membres de ces communautés. Fin de citation, en particulier lorsqu'ils impliquent des enfants, évidemment. Alors notre problème aujourd'hui à nous, c'est que sous couvert de multiculturalisme, on voit reculer les droits individuels face à la pression des revendications portées par des leaders communautaires qui réclament des droits collectifs particuliers. Il s'agit d'une régression à un stade prémoderne et elle risque de se traduire par l'amoindrissement des droits individuels si chèrement conquis. On assiste en effet à un retour bizarre aux communautés auto-administrées d'autrefois, tandis que de son côté, l'État libéral semble débordé et impuissant. Et pour notre auteur, les deux cas les plus frappants sont celui des Pays-Bas et celui de la Grande-Bretagne. En Hollande, pour des raisons historiques particulières, catholiques, protestants et sans religion ont développé des institutions sociales séparées. C'est ce qu'on appelle là-bas la pilarisation. À leur tour, les musulmans ont créé leurs propres écoles islamiques. Les universités donnent à présent des cours de droit islamique. Nul ne s'en choque aux Pays-Bas, tant la société est accoutumée à fonctionner sur une base de séparatisme religieux. En Grande-Bretagne, la situation est plus préoccupante. L'État y a favorisé la création du Muslim Council of Britain en 1997, mais il a délégué à cette institution des compétences et des pouvoirs beaucoup trop étendus au détriment des citoyens musulmans britanniques, car le MCB incarne un courant extrêmement conservateur de l'islam. L'État s'est notamment déchargé sur ce MCB de la surveillance des éléments radicaux. Le gouvernement britannique, écrit notre auteur, préfère ne pas gouverner directement les musulmans britanniques, il s'en remet à des leaders communautaires. Mais ce faisant, certaines institutions publiques ont fermé les yeux sur des dérives très inquiétantes, en particulier sur les viols et abus sexuels commis sur de très jeunes filles par des réseaux de délinquants. Il a fallu plus de 10 ans pour que les travailleurs sociaux et même la police britannique se résolvent à enquêter sur des faits gravissimes dont ont été victimes des milliers de victimes. Le cas de Rotherham, s'il est spectaculaire, n'est pas isolé. C'est le résultat prévisible d'une délégation de fait des pouvoirs de police à des leaders communautaires. Inévitablement, ils sont tentés de protéger les leurs contre l'État.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.